Salut mes petits foies de veau.
Qu'est-ce qu'on aime bien dans la vie?
Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Une reblochonnade, une belle fondue, une côte de bœuf.
On est bleu!
Avec les copains, avec la famille.
On est métal!
Avec le teint bien marbré, bien violet, bien rougeau.
On est pas des Allemands!
C'est ça qu'on aime bien.
Ah, ça a été sa marque de fabrique. Ce sont des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Vous l'avez applaudi dans les salles de spectacle. Vous l'avez vu sur les plateaux télé. Il est comédien. C'est un notaire qui est devenu humoriste. C'est Jason Chicandier qui est avec nous. Bonjour, Jason.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Bravo à vous. Parce que il faut être quand même assez courageux pour se raconter comme vous le faites dans ce livre. Vous racontez vos addictions. Vous racontez que vous avez été accro pendant des années à l'alcool. Que vous avez failli en mourir. Vous avez été interdit. Et vous raconter comment vous en êtes sorti. Bravo, parce que c'est assez rare. En général, quand on est artiste, il faut montrer que tout va bien, qu'on est toujours, on a toujours la pêche, etc. Surtout quand on fait rire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des règles déjà d'être artiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et s'il y a des règles, on est beaucoup, c'est vrai, dans l'univers maintenant de la confidence, de la confession, etc. Et ce que j'ai essayé de dire, déjà, j'ai essayé, comme je disais en citant Louis Ferdinand Céline, je suis écriveur et non pas écrivain, mais j'ai essayé de raconter une histoire avec peut-être des termes quand même un peu littéraires. Voilà, j'ai tenté l'exercice et je me suis dit, quitte à raconter quelque chose, autant le faire avec mes mots, avec cette gouaille que je garde un peu de Chicandier.
Et avec puis, cet humour noir.
Avec cet humour noir et surtout le faire avec humour, dans le sens où je voulais pas rajouter du pathos au pathos. Tout le monde, on voit ce qu'on vit en ce moment, il y a tellement d'horreurs entre les guerres, etc., de tout ce qui arrive chez les gens malheureusement. Et donc, j'allais dire les confessions d'un petit comédien, voilà, alcoolique qui se raconte, ça n'a pas un grand intérêt.
Oui, mais c'est un survivant.
Voilà. Mais ce que je trouvais intéressant, voilà, c'est de dire que je parle un peu de bipolarité quand même. Oui. Et c'est que on n'est pas qu'une maladie, mais on est aussi le produit de plein de choses, de la chimie, etc. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie qu'en fait, mes choix de vie n'étaient pas forcément guidés par ma singularité, ce qui d'ailleurs m'a embêté, mais peut-être aussi parfois par la chimie.
C'est votre fille de 12 ans qui vous a aidé à arrêter tout ça.
Ouais, ma fille, ça a été, c'est-à-dire que quand elle voulait plus me parler, moi j'ai une famille un peu compliquée, un peu à la Bergman, donc j'ai vécu ce que c'était que les affres d'une famille dysfonctionnelle, et je ne pensais pas qu'un jour moi qui voulais faire le gros père nounours aimant, voilà, et qui effectivement bon vivant, qui se met des petites rasades avec les copains, ça deviendrait quand même un calvaire de père alcoolo, quoi. Voilà.
Donc, racontez cette scène.
La scène, c'est quand en fait je bois trois quarts d'une bouteille de vodka dans un train parce qu'on doit me diagnostiquer ou pas une cirrhose. En fait, j'ai la trouille comme un gamin et je bois comme un trou pour évacuer ce stress. Je me réveille attaché à un brancard aux urgences psychiatriques à Avignon. Je rigole encore parce que évidemment je suis bourré, je suis sédaté, donc je suis dans un état second, donc je fais encore des blagues. C'est ce que je dis, je suis loup de Wall Street mais version Carlos. Et donc à un moment donné, je rentre chez moi et moi je suis encore dans la blague, encore dans c'est bon, c'est les frasques du papa qui sont rigolotes. Et en fait dans les yeux de ma fille, je vois qu'il y a plus rien de rigolo en fait et que là elle veut plus me parler. Et elle s'est barrée chez une copine. Et c'est grosso modo, si tu te fais soigner, on peut discuter. Si tu te fais pas soigner, il y a plus rien à discuter. Et donc là,
va plus loin. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que vous vous êtes fait quasiment interné dans un établissement spécialisé. Quoi.
Ouais, complètement. C'est en fait, quand à un moment donné, vous voulez vous en sortir, vous pouvez pas vous en sortir tout seul. C'est pas possible. J'étais trop pris dans les addictions, trop pris dans tout ça pour m'en sortir tout seul. On a beau dire, je vais pas boire une journée, je vais pas boire deux jours, mais la troisième jour, on se fait rattraper, etc. Donc il faut nous isoler et à un moment donné qu'on réfléchisse et qu'on se fasse aider.
Le piège, c'est que votre personnage était lié à tout ça, à la bonne bouffe, on picole, on rigole, etc.
Bien sûr.
Comment on sort de ce piège?
C'est le plus compliqué. On est souvent bouffé par son perso, mais c'est un peu le principe même d'un personnage qui. Le personnage, surtout si on l'a dépeint un peu fort. Moi, j'ai fait la gouaille de Chicandier. C'était pour en hommage au beauf de Cabu. C'était en hommage à Reiser. C'était en hommage évidemment à Coluche. Et c'est on se met un paravent comme ça de beauf pour pouvoir dire ce qu'on veut. Mmh. Voilà, c'est le tonton bourré à Noël qui peut dire ce qu'il veut parce qu'il c'est le tonton bourré à Noël. Donc moi, j'aime bien ces personnages, c'est rigolo. Puis c'est disruptif avec ce qui se passe. En revanche, c'est vrai que petit à petit, on est invité le midi, puis on est puis l'après-midi, puis passe dans mon bistrot, et puis passe le soir, et puis après la tournée, et puis tout ça. Et donc en fait, on se fait happer par son personnage. Et l'alcoolisme arrive comme ça.
C'était des vidéos sur YouTube aussi. Hein, bien sûr, receviez des personnalités quand même, en buvant des verres.
Charles, c'est un message d'espoir pour Didier et Zora, qui on l'a preuve. Didier, tu peux s'en sortir quand même.
Peux dire surtout Zora. Didier, oui, t'es pas obligé de mettre Zora, vas-y.
Des années.
Incroyable.
Voilà, oui, mais. Est-ce qu'on peut poser des questions, parce que justement, Didier, tout à l'heure, avant de vous recevoir, il m'a dit quand même, il est violent, il est rude, son livre, quoi.
Moi, je voudrais.
Attends, Didier.
Vas-y.
Bah, du coup, moi, je viens d'un milieu où le travail est une valeur, mais où la grenadine à 11 ans, on va la chercher dans le cubi, quoi. Mm-hmm. Voilà, on coupe l'eau avec du vin. Donc, c'est un milieu où finalement, c'est quand même. Alors là-dessus, on y rajoute du rugby. 30 ans de rugby, je pense que c'est assez facile de sombrer dans l'addiction.
Tu l'as été, toi, alcoolique ou pas?
Je sais pas comment on qualifie l'alcoolisme. J'ai bu du vin tous les jours à table et je le fais plus, voilà. Je peux pas dire que j'ai pas une consommation d'alcool, voilà. Donc, à un moment donné, c'est quoi l'addiction? Ça commence où? Ça s'arrête où? Je sais pas bien. Moi, j'avais une question. Est-ce que si vous étiez né dans une famille, on va dire, équilibrée, normée, est-ce que ça aurait été différent? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, alors entre les addictions, mais pendant très longtemps entre l'alcool et les humoristes, quoi, parce que
si
c'est parce pas... que les plus grands, ils avaient tous un peu, enfin moi je suis un fan de Jean Carmet.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle un peu de maladie mentale dedans, et c'est sans se dédouaner, c'est simplement que je cite les grands bipolaires voilà, comme Charlie Chaplin, etc.
Comment elle se manifeste, votre bipolarité?
La bipolarité, en fait, elle se manifeste justement, c'est pour ça que tes deux questions sont imbriquées. Est-ce que la bipolarité, on l'a depuis qu'on est gosse? J'en sais rien, je suis pas médecin. Après, est-ce qu'elle se manifeste par des rapports un peu compliqués qu'on peut avoir, des schémas familiaux? Certainement. Elle se développe en tout cas comme un champignon. Et après, c'est ce qu'on appelle des causes de comorbidité. La comorbidité, c'est quand on a des problèmes mentaux, on a un terrain qui est beaucoup plus réceptif pour les addictions. C'est-à-dire que pour certains, il y en a, ils vont boire un verre de vin, ils vont juste dire c'est bon, moi j'arrête là. Et il y en a qui vont dire un verre de vin égale finir la bouteille, voire finir deux bouteilles, voire finir trois bouteilles. Voilà, c'est tout le problème. Donc j'aurais eu un schéma familial normal. Je pense pas que j'aurais eu sombré dans ces trucs-là. Après, c'est pas mes parents non plus qui sont responsables de l'alcoolisme.
Ouais,
et puis il y a des trucs que j'ai bien aimé faire. Moi, honnêtement, la bipolarité aussi m'a amené dans des excès que j'ai adoré. Quand je me suis retrouvé en porte-jartel avec des clochards à boire du pinard devant le Moulin Rouge, je trouvais ça quand même plus intéressant que faire des actes notariés.
Et aujourd'hui, vous arrivez à tenir? C'est plus une goutte d'alcool du tout?
Ah oui, aujourd'hui c'est zéro, parce que j'ai pas le droit, j'ai pas la possibilité. De boire un peu. J'essaie de le raconter un peu. C'est comme ça. En fait, mon cerveau, il est ainsi fait que si je peux vraiment vriller avec un mon chéri, quoi.
Et est-ce que vous restez drôle?
J'essaye de rester drôle. Je joue encore sur scène.
Parce que l'alcool vous aidait à vous lâcher dégénie, plus
forcément. Alors, l'avantage, moi, que j'ai avec la bipolarité, c'est comme j'ai une bipolarité de type 1, c'est comme si mon rapport normal aux choses, c'est comme si j'avais bu 3 verres, déjà.
D'accord.
Donc, si on rajoute à ça 3 verres, ça devenait carrément délirant. Mais je suis
donc, en fait, la bipolarité.
Et 6 verres, ça fait
plus
personne.
Et 6 verres, ça fait plus personne.
Ça veut dire que la bipolarité, à la fois, est un cauchemar, mais ça fait de vous l'humoriste que vous avez.
Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est un trait commun des grands humoristes? Enfin, moi, j'en ai plein en tête. Donc Carmet, parce que.
Bien sûr. Alors, je sais pas si Carmet était bipolaire, mais en tout cas, ce qui est
certain. Charlie Chaplin était bipolaire?
Ouais, Charlie Chaplin était bipolaire, mais pas que lui. Churchill, bah, Marilyn Monroe,
et puis il y a Elizabeth plusieurs... Bourne, elle serait pas drôle du tout si elle était. Heureusement qu'elle l'est.
C'est peut-être
elle
parce qu'elle l'est qu'elle est pas drôle.
Mais ouais, attends, mais sinon elle aurait pas son humour. Hein.
Ouais, mais je suis d'accord. Vous-même, vous restez un déconneur, un amoureux des choses, voilà, et un jouisseur et un bon vivant, c'est ça.
Je pense même que je suis. Plus, en tout cas, il y a des gens qui vont toujours pas me trouver drôle, mais en tout cas, j'essaye. J'ai plus de bonhomie aujourd'hui que j'en avais avant. Voilà, ça c'est sûr et certain. Je me lève le matin, j'ai plus la pêche, j'ai plus envie de faire rire mes petits congénères, j'ai plus envie d'être sympa avec tout le monde. Je suis un peu plus la meilleure version de moi-même aujourd'hui que je l'étais il y a 5 ans.
Zora.
Alors, moi, il y a de l'humour, mais en même temps, il y a beaucoup de courage quand même, énormément de courage. Si, je pense que à un moment donné, peut-être que le déclencheur, c'est, effectivement, ça a été votre petite fille. Mais il y a quelque chose qui ne ment jamais, c'est le miroir. Et qu'à un moment donné, c'est votre petite fille qui vous a tendu le miroir. Mmh. Et là, vous avez traversé votre vie. Et c'est vrai que cette idée d'être de revêtir un personnage pour pouvoir jouer, faire le clown, faire le con, c'est super. Mais il y a un moment donné, la vérité, elle tombe. Et là, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez cette vérité, cette traversée un peu, cette nudité alors avec vos mots, avec l'honnêteté de raconter les bas-fonds.
Et les témoignages de tous ceux que vous avez côtoyés aussi dans ce centre
de réhabilitation. Tout ce que vous avez atteint pour dire, ok, je vais peut-être aller au fond, mais quand je vais pousser le pied, je vais remonter.
Il y a vous, et comme le dit Zora, il y a une galerie de portraits aussi dans ce livre.
C'est ça que j'ai aimé. Et
sacré portrait, c'est au-dessus d'un nid de coucou d'ailleurs.
Pour reprendre ce que dit Charles par rapport à Elisabeth Borne, ou par rapport aux politiques, ce que vous vivez toute la journée. C'est-à-dire que c'est une galerie, j'allais dire, de gens qui ont des masques et des surmasques et des positions, etc.
C'est peu dire.
Et au bout d'un moment, c'est insupportable parce qu'en fait, il y a plus de vérité puisque ce n'est que la phrase de l'autre qui est reprise par l'autre dans un schéma de je sais pas quoi. Quand vous vous retrouvez en clinique, il y a plus tous les masques tombent puisque tout le monde est à poil et tout le monde se dit des choses. Et c'est ça que je voulais dire. L'autre est intéressant puisque il y a deux possibilités dans la vie. Soit vous faites Sylvain Tesson, soit vous faites Welbeck, soit vous faites Nietzsche et Schopenhauer et vous dites que l'homme est con et qu'il vaut mieux se mettre dans les chemins noirs et caillouteux et se dire qu'on est tout seul près des cimes et loin des cons. Soit vous prenez l'autre en considération. Ce qui est le plus dur. C'est un schéma christique beaucoup plus compliqué. Et c'est de dire l'autre existe. Et je l'écoute, je prends la main, mais c'est ensemble qu'on devient meilleur.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez tombé le masque et vous dites quelque chose d'important, c'est que vous dites beaucoup d'univers, les gens ont ce masque, ils le posent pas, et il y a pire. C'est que quand ils rentrent dans une confidence, elle est aussi encore avec un masque. C'est encore plus pervers parce qu'on a une espèce de
fausses confidences.
C'est la grande mode. C'est-à-dire qu'on se met à nu et en vérité c'est encore un masque.
Là franchement c'est un livre qu'on vous conseille
parce que c'est
une galerie de portraits, c'est-à-dire que à partir du moment où vous rentrez dans cet établissement, vous côtoyez des gens,
des histoires humaines,
de gens qui sont partis à la dérive, sont partis dans l'addiction, vous échangez. Vous les découvrez. Moi, il y a une phrase qui m'a fait marrer, c'est quand vous dites la sobriété, c'est absolument fantastique. Le hic, c'est qu'on s'y emmerde terriblement.
Bah oui, c'est vrai ça. C'est malheureusement vrai. Il y avait Nils Harrystrup, ce génie de Nils Harrystrup, qui était un grand alcoolique et un grand comédien évidemment. Et à un moment, et en plus, il était vigneron et il avait dû s'arrêter de boire pour les mêmes raisons que moi. Et on lui avait dit alors comment ça se passe la sobriété, et il a dit je m'emmerde. Et surtout quand on a un poil dépressif à la base. Quand on a conscience de l'autre et conscience de l'humanité, déjà on s'emmerde.
Alors comment on compense l'emmerdement quand, où est-ce qu'on trouve le plaisir
justement rendre les autres intéressants.
Exactement. Je bois pour oublier, moi y compris. Jim Morrison. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est un allant que vous êtes obligé de faire, moi que je me force à faire tous les matins comme un mantra, en disant ok c'est chiant, ok c'est tout ce qu'on veut, mais on essaye quand même tous les jours, j'essaye comme le mythe de Sisyphe, je prends le boulet, je le remonte tous les jours et on va trouver les autres intéressants et on va y aller.
Est-ce que vous avez d'autres addictions plus saines?
Le sucre. J'aimerais le sexe si je bandais, mais je le sucre.
Mais c'est pas revenu ça.
non, mais ça ne m'intéresse pas. C'est des trucs de jeunes.
Non mais
c'est
beaucoup trop jeune. Chicandier sur scène, Chicandier au cinéma, Chicandier à la télé. C'est quand les projets? Ils sont là toujours de toute façon.
Les projets sont là. La scène est là avec mon pote Matoukan. On a un spectacle qui s'appelle Interdit au public, woke s'abstenir. C'est marqué dessus. Hein, voilà, comme le portrait.
Alors justement sur ça, parce que vous êtes courageux de raconter votre histoire. Vous êtes aussi courageux parce que vous êtes l'anti-woke, mais l'anti-woke pas méprisant, l'anti-woke qui se moque aussi de ce que peut être un boomer avec ses trucs, etc. Mais c'est ça qui a marché chez vous. Quand vous disiez on n'est pas des Allemands, ben moi ça me faisait marrer parce qu'effectivement on veut nous transformer en Allemands maintenant.
C'est tout le problème.
C'est quand même un mouvement de résistance.
C'est tout le problème, c'est que ce que j'aime bien, alors je vais vous faire marrer. On fait le spectacle au départ et on se dit, vu qu'il y a Nova qui existe, etc., on va faire nous, notre petite communauté de petits enculés de droite à mocassin, tranquille, etc. Et à un moment donné, on commence à se moquer des gens de gauche, voilà, mais gentiment, honnêtement, c'est pas non plus hyper corrosif. Et là, on se rend compte qu'on fait pas super recette, alors que notre public, il est plutôt CSP+, genre pharmacien, quoi. Et là, je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous rigolez pas quand on se moque des gens de gauche? Et ils disent, parce qu'ils nous intéressent pas. Donc en fait, les gens de droite aiment bien quand on parle d'eux-mêmes. Voilà. Comme les grands bourgeois, ils aiment que quand on parle de leur famille. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on essaie de fédérer. Moi, j'essaye de moquer des gens de droite.
C'est pas évident aujourd'hui parce que les humoristes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont épiés. Il y a les réseaux sociaux. On découpe leurs sketchs.
Là, bien
on comprend une phrase en disant là, c'est horrible de dire ça.
L'Arcom.
Mais c'est vrai que c'est compliqué.
J'ai découvert un truc. Comment ce qui me fait marrer, c'est que j'ai vu que Mathieu Pigas était le milliardaire qui s'occupe de Nova. Oui. Et donc je suis allé voir sur Wikipédia parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un milliardaire d'ultra-gauche. Mais vraiment, très premier degré. Et je me suis aperçu qu'il avait revendu sa régie publicitaire à Lagardère, qui elle-même est détenue par Bolloré. Donc ça veut dire que les patrons de Nova sont Bolloré. Et donc là, je me suis dit, c'est plus moi le cynique. Ce monde est beaucoup plus cynique. Il est beaucoup plus cynique que ce que je croyais.
Voilà. Oui. Merci Chicandier d'être passé par les GG. On vous conseille ce livre Accro chez Michel Lafond. Merci Chicandier. À bientôt sur scène. Donc les spectacles, c'est où
le spectacle, c'est vous allez sur mon site Instagram et nous sommes partout en France et nous continuons. Et merci de me recevoir à chaque fois, les amis.
Merci Chicandier. À bientôt. Merci.